Antoine Joubert, Germain Goyer, des vrais gars de char, le guide de l'auto.
Évidemment, Germain, les gens attendent avec impatience, et je les comprends tellement, la sortie du prochain guide de l'auto 2022, ça c'est sûr. Mais en attendant, il y a beaucoup d'électromobilistes ou de gens qui sont curieux ou de gens qui pensent peut-être faire le virage vers un véhicule électrique ou hybride.
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui y pensent,
ouais,
un certain nombre qui
le pourront fait. Se procurer le guide de la voiture électrique dont le maître d'œuvre est Daniel Breton qui est avec nous aujourd'hui. Salut Daniel.
Bonjour, bonjour.
Bon, Daniel, d'abord, donne-nous ton nouveau titre qui est interminablement long. Ça va mettre la table sur tes occupations du quotidien.
Oui. Ben, c'est en fait, ça s'appelle le guide pratique de la voiture électrique et plus, parce qu'on ne parle pas que de voiture. Fait que, donc, on a ajouté le mot pratique dans ce guide-ci pour une raison fort simple, c'est que on a découvert depuis les 2-3 dernières années. Maintenant qu'on a passé les geeks, les early adopters, les ingénieurs, les écologistes qui veulent s'acheter des voitures électriques, ouais. Monsieur, madame, tout le monde commence à regarder pour acheter des voitures électriques ou ont déjà acheté des voitures électriques, mais qui ne savent pas comment ça marche parce que leur concessionnaire ne leur a pas expliqué. On a dit, ouais. On va avoir toute une première partie où on va dire vraiment l'ABC, d'abord avec un lexique sur c'est quoi les termes, un J1772, un BRCC, SOH, SOC, parce que c'est un nouveau monde, pareil comme si tu te mettais à faire de... Je sais pas, moi, de la voile, puis tu connaissais pas la voile. Fait qu'il y a des termes que les gens doivent connaître. Puis là, ben après ça, on parle des programmes, on parle de comment brancher une borne de recharge, une voiture électrique sur une borne de recharge, étape par étape, avec photo à l'appui. Justement, parce que, écoute, je vois à chaque semaine des gens qui viennent de s'acheter une voiture électrique, qui savent pas comment la brancher une borne rapide. Fait qu'on veut vraiment un côté pratique pour que les gens puissent prendre le guide, qui est pas aussi gros qu'un guide de l'auto, le mettre dans le coffre à gants, puis au besoin, leur sortir et dire « Ah oui, c'est comme ça qu'on branche une voiture électrique. »
C'est un livre dans lequel on peut ajouter des post-it, encercler des éléments importants. C'est ce genre de documentation-là.
Il n'y a pas de mots croisés, Germain, par exemple.
Non, ça, c'est malheureux. J'aurais bien aimé un mot croisé comme dans l'éco-vedette, mais avec le visage de Daniel Breton.
Ouais, dans le milieu.
Oui, voilà.
Une suggestion pour
avec son petit chien.
Une suggestion pour la prochaine version. Mais,
oui, on va en prendre bonne note.
C'est bien, ça.
Qu'est-ce qu'on retrouve comme autre section dans le livre? Il y a des essais de véhicules, particuliers. On a même remarqué que certains véhicules, peut-être pas si verts que ça, ont été intégrés. C'est le cas du Ford Explorer qui me vient en tête comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve là dans le livre?
Mais en fait, il y a trois sections. Tu as la première section qui est l'ABC des véhicules électriques dont je viens de parler. La deuxième section, c'est les essais de véhicules partiellement ou entièrement électriques, c'est-à-dire des véhicules hybrides, hybrides rechargeables ou électriques et même un véhicule à hydrogène. Donc, on explique les pour et les contre, les plus et les moins de chacun des véhicules d'un point de vue plus environnemental. On parle moins de performance, on parle moins... De tenue dans les courbes.
Non, je pense, c'est pas l'exercice. Je pense, c'est pas le but de l'exercice.
C'est pas l'exercice, ouais. Mais par exemple, quand on parle du Explorer hybride, ben, l'idée, c'est de dire, ben, si quelqu'un va avoir un véhicule hybride qui consomme un peu moins, mais qui est capable de tirer une lourde charge, ben, ce véhicule-là peut faire partie des choix intéressants.
Mais en contrepartie, moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que je regardais la liste des véhicules qui sont là-dedans, puis je me disais, il y a quand même des véhicules 100% à essence qui sont énergétiquement plus intéressants que certains véhicules hybrides sur le marché. Alors, comment vous avez... Est-ce que la ligne directrice a été « ça a une batterie, on la met dedans »
Bien, en fait, je suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'il y a des véhicules à essence qui consomment moins que certains véhicules hybrides, mais dans une catégorie, par exemple, tu regardes le format voiture compacte, il n'y a pas de voiture à essence qui consomme moins qu'une voiture hybride ou hybride rechargeable ou 100% électrique compact. Dans la catégorie d'un véhicule intermédiaire ou dans les catégories des gros VUS, quand un véhicule est hybride ou hybride rechargeable, il consomme toujours moins. Mais l'idée là-dedans, c'est de faire en sorte de trouver les meilleures solutions d'un point de vue gaz à effet de serre, d'un point de vue pollution atmosphérique. Même si, honnêtement, moi, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, mais jadis naguère, en 2016, on avait des voitures à essence qui étaient intégrées dans notre livre initial.
Oui, ça, je me rappelle bien.
Là, on a sorti les véhicules à essence. Moi, je ne serais pas étonné que bientôt, les véhicules hybrides sortent carrément. Parce qu'il va y avoir de plus en plus de véhicules hybrides rechargeables
sur
le marché.
C'est clair. Fait
qu'on s'en va dans une transition, on va dire ça de même. La troisième partie, la dernière partie, bien ça, c'est la partie pour ceux qui veulent s'intéresser à des enjeux économique, écologique, scientifique, ouais, technologique, des véhicules électriques, de l'électrification et transport. Et ça, c'est, je te dirais, c'est la section, dans le fond, la section pour les experts ou pour les geeks qui s'intéressent dans des articles faits par moi ou Pierre Langlois, le physicien.
Ouais.
Où on parle de nouvelles technologies. Donc, ça, c'est une section qui va toujours demeurer parce que on a un noyau de gens qui s'intéressent à ces enjeux plus pointus-là.
Bien, justement, tu nous amènes sur ce terrain-là. Moi, il y a un des points qui m'a interpellé dans le livre, je pense que c'était dans la première section, il y a une section où, évidemment, tu comprendras pourquoi ça m'a interpellé. Il y a une photo d'une Mustang Mach-1 avec une Kia Soul, et là, on dit une voiture électrique peut coûter moins cher qu'une voiture à essence. Puis, ouais. Moi, je veux un peu comprendre. Bon, évidemment, je comprends que l'image qu'on illustre là, bon, c'est un peu une parodie, là, mais en même temps, parce qu'on s'entend qu'une Mustang Mach-1, une Mustang Mach-1 aujourd'hui, si tu veux en acheter une, ça coûte 100 000 $, puis ça roule à 20 litres au 100, fait que, bon, ouais. Mais...
Ben, d'autant plus que la Mustang Mach-1 dont tu parles, c'est une 69 ou une 70.
Ouais, c'est ça, parce exactement.
C'est juste que le hasard a fait qu'à Saint-Denis-sur-Richelieu, je testais la Kia Soul Levy, qui était jaune pétant, puis j'ai vu une Mustang Mach-1 orange pétant, je me suis dit, ça ferait une belle photo. C'est juste ça, là.
Ben, je te le confirme, ça fait une belle photo. mais là, écoute, tu mentionnes, il y a des calculs qui sont vraiment intéressants, vraiment détaillés sur le coût de possession à long terme d'un véhicule électrique versus un véhicule à essence. Puis évidemment, ouais, moi, plus le temps avance, plus ce que je constate, c'est que le prix des véhicules électriques baisse, on s'en rend compte avec la nouvelle Bolt, et plus ouais, celui des véhicules à essence augmente parce que la profitabilité des constructeurs n'est plus possible avec des petits véhicules. Fait que la logique, moi, je la comprends, mais c'est quand même très bien expliqué dans ton livre. J'aimerais ça que tu m'expliques un peu comment vous avez fait cet exercice-là.
Ben en fait, c'est parce que souvent, quand on parle avec des consommateurs, ces gens-là disent « Vous devriez m'acheter une voiture électrique, parce que ça coûte trop cher. » Puis là, on leur dit « Écoutez, au-delà du paiement mensuel que le concessionnaire va vous dire,
ouais,
il y a ce qu'on appelle le coût total de propriété. C'est-à-dire, oui, le coût du véhicule par mois, le paiement par mois, mais il y a aussi les coûts d'énergie, donc que ce soit de l'essence ou de l'électricité, le coût d'entretien, il y a la valeur de revente, il y a les assurances, qui peut faire en sorte de jouer de devenir un élément important de l'équation. Mais ça, évidemment, les concessionnaires font un effort particulier pour pas vous y penser.
Ben, c'est sûr.
C'est-à-dire que ils veulent pas vous dire, non, ton véhicule, ça va... Ils disent pas, ils te parlent pas de ça. Ils parlent, dans le fond, souvent, même des vendeurs ne vendent pas un produit, ils vendent des mensualités.
Ben oui.
Et c'est ce que les acheteurs achètent, d'ailleurs, souvent.
Exactement. C'est ce qui fait que les gens se retrouvent avec des ballons. Et que là, ils se retrouvent financièrement dans le trouble parce qu'ils sont rendus à la troisième ballon, à un moment donné, ils se retrouvent avec une voiture qui en vaut 30, puis il faut qu'ils payent 60 000 de
plus. Ouais, c'est ça.
Puis même, deviennent même prisonniers de certains constructeurs parce qu'ils disent, ben, si tu pars de chez nous pour aller vers une autre marque, ben, il va falloir que tu nous rembourses. Fait que ça devient extrêmement, à mon avis, c'est un piège. Mais c'est pour ça qu'on explique ça, le coût total de propriété. Fait qu'on l'explique détail. Puis tu as tout à fait raison, Antoine, quand tu dis que plus ça va, plus les petites voitures pas chères à essence disparaissent.
Ouais.
Et plus, tu sais, t'arrives chez Volkswagen, là, que la disparition de la e-Golf, puis de la Golf, ben là, la voiture la moins chère que tu vas trouver chez Volkswagen va être à peu près 30 000 $.
Ouais, une Jetta à 25 000, là, ouais.
Puis 25 000 et plus, là, facilement, ah ouais, tu comprends? Là, si tu la mets automatique avec un volant, là, ça monte à 30. Chez Honda, ben, t'es rendu à 25 000.
Ouais.
Puis, tu sais, chez Toyota, t'es rendu à 24 000. Ouais. T'en es plus à 12 000, là. Fait que les voitures à 12 000 disparaissent. Fait que ce que tu dis, t'as tout à fait raison. L'écart diminue à tel point que quand je parle justement de la Chevrolet Bolt, évidemment, on parlera pas de taux d'intérêt parce que la voiture est pas encore sur le marché. Mais si tu compares ça avec une Toyota Corolla, le calcul que j'ai fait, c'est qu'au bout de la ligne, après 5 ans, ta Corolla va t'avoir, tu sais, va, avec la valeur de revente qui est moindre, tu vas avoir à peu près 5 à 6 000 $ dans tes poches avec une Bolt par rapport à une Corolla de base automatique.
Ouais.
Quand je comparais la RAV4 Prime de base, qui là commence à entrer en plus grande quantité tranquillement.
Ouais.
Versus une Honda CR-V traction intégrale de base.
Ouais, le problème, c'est qu'un RAV4 de base, ça, il n'y en a pas, là. Il y a juste des XSE à 56 000.
Non, ça, c'est pas vrai, ça. Parce que moi, j'ai des amis qui en ont commandé. Là, puis là, les versions de base commencent à rentrer en plus grand nombre depuis quelques semaines, à peu près.
OK, parce que écoute...
Au début, c'était pas ça du tout, là.
Ah, pas du tout, c'était 3 %.
C'est ça.
C'est ça. Mais même moi, j'ai parlé aux gens de Toyota récemment, puis ils m'ont dit les SE, c'est à peu près 10 % des ventes. Puis je l'ai regardé de travers en disant, ouais, t'es généreux avec 10.
T'arrondis fort.
Mais de toute manière, vous savez aussi bien que moi que combien de gens achètent un CR-V de base?
Ah non, c'est clair. Personne.
C'est ça. Fait que les versions, moi, je compare les versions de base parce qu'il y a des gens qui me disent l'équation économique pour avoir un VUS pas cher, c'est ça. Mais la réalité, c'est que 90 % des gens, quand ils entrent chez le concessionnaire, ils n'achètent jamais une version de base de quelques véhicules que ce soit.
À l'exception de chez Toyota, ironiquement, où la version de base du RAV4, la LE, se vend dans une proportion de presque 25 % parce que le véhicule est bien packagé, puis tu as des acheteurs qui sont quand même assez analytiques chez Toyota. Là. Mais c'était peut-être une exception une exception dans le segment.
Mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est pareil comme quand les gens font des annonces de Honda Civic qui disent à partir de 16 800 machins. Puis t'arrives là, puis non, mais ça, c'est manuel. Mais il n'y a personne...
Pas d'air climatisé avec un radio cassette.
Ben fait que finalement, c'est 25 000 minimum, là.
Ouais.
C'est ça. Puis là, les gens qui achètent une manuelle, en fait, c'est qu'ils achètent la version RSI machin qui vaut 40 000.
Oh oui, non, ben, c'est ça.
Tout le monde s'achète une Honda Civic, il l'achète automatique, équipé moyennement, puis elle coûte entre 25 et 30 000.
Okay. Moi, le seul point, puis t'en as fait mention dans ce que tu viens de nous dire, le seul point où là, je suis un peu plus critique, parce que j'ai aussi aimé le fait que vous partagiez les coûts de recharge d'un véhicule électrique. Ça, c'est quand même un point. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont promouvoir le véhicule électrique en disant, ben t'as pas d'essence à mettre. Ouais, mais l'électricité coûte quelque chose quand même. Il faut que tu la comptabilises, puis ça, vous le faites. Absolument. Mais là où je suis un peu plus critique, c'est la valeur de revente des véhicules électriques. Parce que pour moi, un véhicule électrique, là, c'est comme un téléphone cellulaire. Ça déprécie à la vitesse de la lumière. Du moins, mettons un véhicule électrique qu'on vendait en 2015. Qui veut acheter ça aujourd'hui?
Et moi, c'est la crainte que j'ai ressentie chez beaucoup de consommateurs. On dit, je veux bien acheter une Nissan Leaf flambant neuve, mais quand je regarde les modèles de première génération puis je vois le prix que ça vaut maintenant, ça donne vraiment pas le goût d'en acheter, là.
Oui, en fait, je suis d'accord et pas d'accord avec vous. Je vais vous dire pourquoi. C'est qu'il y a des modèles qui déprécient vite et d'autres qui déprécient moins vite. Puis le Nissan Leaf, c'est le cas patent du véhicule électrique qui déprécie vite. Et d'ailleurs, même neuf, moi je me rappelle, en 2017, quand il y avait des gens qui me demandaient s'ils devaient acheter une Nissan Leaf, je leur disais, écoute, est-ce que tu as envie d'acheter un iPhone 4? C'est ça. Il y a des véhicules comme ça qui déprécient plus vite parce que leur technologie est moins au goût du jour.
C'est vrai pour tous les véhicules qu'on vendait il y a 5-6 ans, dans le fond, Daniel. Parce que que ce soit une Focus électrique, une Soul, une Leaf, l'autonomie était toute en bas de 200 km. Il n'y avait rien d'intéressant
et
là.
Et personne ne recherche ça aujourd'hui.
Je suis d'accord avec vous, sauf que depuis 2017, depuis l'arrivée de la Bolt de première génération, on a atteint un point, quand on tourne autour de 400 km, tu peux dire, même si les véhicules s'améliorent, là, tu as atteint un point de bascule qui fait en sorte que même si tu achètes une voiture de 3-4 ans, qu'il soit une Soul ou une Bolt ou une Niro, dans 3-4 ans, le 400 km devient un point de bascule qui est vraiment important. C'est comme un autre step. Ce qui fait que tous les véhicules d'avant le 400 km qui sont à 200 ou 150 ou même 100 km, là, c'est sûr que la valeur de revente est beaucoup moindre et c'est pour ça qu'on trouve des véhicules électriques à 100-150 km d'autonomie à des prix ridicules sur le marché. Mais moi, je te dis, là, les Bolt, les Soul, les Niro et les voitures à 400 km vont garder leur valeur de revente beaucoup plus que celle de la première génération que je qualifie de génération modalité, là, les IMIEF et les Leaf de première génération.
Ben, on te réinvitera dans 4 ans pour vérifier si c'était vrai.
Vous ferez ça.
Dis-nous, Daniel, un des sujets qui a créé peut-être le plus de polémiques dans l'univers autant de la voiture électrique que de l'automobile en général, c'est la pollution liée à la fabrication des véhicules électriques. On sait que c'était particulièrement polluant. Est-ce que ça l'est toujours? Est-ce que on réussit à atteindre peut-être un équilibre qui est plus intéressant? Surtout dans la fabrication des batteries qui si je ne me trompe pas, étaient principalement polluantes. Là.
Oui, ben en fait, ça a beaucoup évolué et on en parle dans le livre justement de ça. C'est-à-dire que si on regarde la quantité d'énergie, la pollution par kilowattheure de batterie, celle-ci en 2013-2019 a baissé d'à peu près 60 %. On prévoit que la pollution par kilowattheure va baisser d'à peu près un autre 50 à 60 % d'ici 2024-2025. Et en plus, on va ajouter le recyclage des batteries, par rapport au fait qu'on peut pas recycler évidemment du pétrole qu'on a brûlé, va faire en sorte que le rapport va changer d'à peu près un pour huit. C'est-à-dire que ça va diminuer entre 2013 et 2025. On va dire que la pollution pour la production et le recyclage des batteries va faire en sorte que l'impact sur le cycle de vie des batteries va avoir diminué fois huit. Okay. Autrement dit, c'est que pendant que les véhicules électriques sont de moins en moins polluants, un, parce que les batteries polluent moins à la fabrication, parce qu'on est passé d'un mode quasi artisanal de fabrication de batteries à un mode industriel de plus en plus efficace. En même temps, le recyclage des batteries commence à se peaufiner. Puis là, vois-tu, il y a une compagnie québécoise comme Lithion qui a annoncé une entente avec Hyundai pour le recyclage des batteries à terme pour les prochaines années. Mais en même temps, c'est que le pétrole qu'on met dans nos voitures à essence, ben lui, il est de plus en plus polluant parce que de plus en plus, c'est du pétrole non conventionnel qu'on met dans les voitures à essence. C'est-à-dire qu'on prend de moins en moins de pétrole de source conventionnelle, puis c'est de plus en plus du pétrole des sables bitumineux, du pétrole de schiste. Fait que pendant que les voitures électriques sont de plus en plus propres, les voitures à essence sont de plus en plus sales.
Même si elles consomment moins qu'avant.
Même si, ben en fait, oui et non. Dans le sens que, tu sais aussi bien que moi qu'il y a beaucoup de gens ces temps-ci qui remplacent des Honda Civic pour s'acheter des Honda CR-V. Dans le sens que les gens délaissent les voitures pour acheter des VUS, même si les VUS consomment moins qu'avant, comme tu as beaucoup plus de VUS qu'avant, la consommation de pétrole augmente, les émissions de gaz à effet de serre de la flotte de véhicules à essence augmentent de façon faramineuse.
Mais ça, on s'entend que d'ici quelques années, il va y avoir un point de bascule. Tu sais, je parlais un peu plus tôt cette semaine avec Benoît Dutrisac du fait que Jeep est sur le point de lancer un Grand Wagoneer avec un V8 de 475 chevaux, puis que GM a abandonné les V6 dans ses Silverado pour n'offrir que des V8. Ben, tu sais, ça, c'est des trucs qui, dans quelques années, seront juste plus possibles. Tu sais, je pense que là, on voit les derniers moments de ces gros moteurs-là. D'ici quelques années, ça sera plus impossible. Ça sera plus possible, c'est clair.
Moi, on va dire ça de même, Antoine. La météorite s'en vient, là, puis les derniers dinosaures vont être éteints d'ici quelques années.
Ouais, c'est ça. L'image est très forte.
Daniel, moi, un point que je veux aborder avec toi, évidemment, il y a une espèce de contradiction entre le fait que le Québec soit une région qui est pionnière pour la mise en lumière de la voiture électrique et qu'on soit un des endroits en Amérique du Nord où il fait le plus fret. Et une voiture électrique, l'hiver, c'est tout le temps, c'est un cauchemar, on perd tellement d'autonomie. Il y a beaucoup d'irritants reliés au fait qu'on roule au froid avec une voiture électrique. Vous abordez ce sujet-là dans le livre en ayant fait un test hivernal avec les véhicules, en regroupant en fait l'ensemble des voitures électriques qu'on avait regroupées il y a 2 ans dans le guide de l'auto pour faire un test estival comparatif. Là, vous avez pris ces mêmes véhicules-là, vous avez fait un test hivernal, il faisait fret, vous les avez testés, vous avez testé à quel point c'était efficace ou pas efficace, puis ce test-là est quand même assez concluant, là.
Écoute, c'était cauchemardesque cette journée-là. On était en pleine tempête de neige, il faisait moins 20, il ventait, on voyait rien. Les gens disaient, on fait pas le test aujourd'hui, ça n'a pas de bon sens. Je disais, non, il faut justement le faire parce qu'il fait un temps épouvantable. Mais ça a vraiment été infernal. Mais cela dit, ça a démontré qu'il y a des véhicules en hiver qui se comportent de façon beaucoup plus efficace que d'autres. Le grand gagnant, si tu te rappelles, c'est la Kia Soul, avec laquelle on est arrivé avec une autonomie, si je ne m'abuse, là, par cœur d'à peu près 335 km. Puis en fond de peloton, on avait le Tesla Model 3. Qui était celle qui finissait, on parle de la Standard Range Plus, qui est celle qui finissait avec le moins d'autonomie en hiver. Ça a tout pris pour qu'elle se rende au Supercharger. Cela dit, depuis, Tesla est arrivé avec une batterie avec plus grande autonomie pour la SR Plus. Mais quoi qu'il en soit, ça démontre que tous les véhicules ne sont pas égaux et en autonomie et en vitesse de recharge en hiver. Et c'est ce qu'on démontre dans le livre.
Puis évidemment, la Nissan Leaf, elle, qui n'est pas équipée d'un système de thermorégulation...
Elle est désavantagée, aussi. Oui.
Mais elle, été comme hiver, est désavantagée.
C'est ça.
C'est assez clair.
Parce qu'on a aussi notre test estival dans ce livre-là. Là.
Ouais.
Puis elle a vraiment... Écoute, ça a vraiment été pénible avec la Leaf dans le test estival. Test hivernal, somme toute, elle s'en est sortie un peu mieux. Mais c'est intéressant. C'est justement pourquoi on voulait faire l'exercice avec les mêmes véhicules en hiver et en été, pour que les gens voient les différences. Mais les Kia, les Hyundai, sont particulièrement bien sortis, on va se le dire.
Entre Antoine et moi, il y a un débat qui s'étire depuis plusieurs mois. C'est la subvention de véhicules hybrides rechargeables. Ouais. Parce que, de son côté, ce qu'il mentionne, et je lui dis pas qu'il a tort, mais c'est que les gens vont acheter un véhicule hybride rechargeable. Dans le cas du RAV4 Prime, par exemple, vont profiter de la pleine subvention, mais ne vont pas optimiser le fait de rouler avec l'électricité. Donc, pourquoi, en tant que société, on doit subventionner ou aider ces gens-là?
Ben moi, en fait, j'apporterai une nuance à ce que tu viens de dire, Germain, en disant le RAV4 a droit à 13 000 de crédit gouvernemental.
Ah, c'est ça. C'est qu'en plus, il y a des incohérences au sein d'un même segment.
C'est ça. Puis la fourgonnette Chrysler, c'est la même chose, mais tu as d'autres véhicules hybrides rechargeables qui offrent à peu près la même autonomie, qui, eux, ont droit à 6 500.
Oui.
Moi, je suis pas capable de comprendre pourquoi on octroie un plein 13 000 $ à un véhicule partiellement électrique, alors qu'on accorde le même rabais pour un véhicule qui est 100 % électrique, qui, lui, est assuré de ne jamais émettre d'émissions polluantes. Alors, pour moi, ça, c'est un non-sens. Puis, je veux avoir ton point de vue là-dessus, Daniel.
Je suis d'accord avec Antoine. C'est-à-dire que je considère que si un véhicule, surtout les véhicules, même un véhicule hybride rechargeable qui aurait droit à 6 500, mais qui a juste 25 ou 30 km d'autonomie, je trouve ça un peu ridicule.
Ouais.
D'autant plus que ces véhicules-là vont rouler la majorité du temps en mode hybride ou en mode non branchable.
Mais ouais.
Puis en plus, quand arrive l'hiver, c'est pire que pire. Je veux dire, moi, ma mère a un Toyota RAV4 Prime, puis je me rappelle une journée, il faisait froid, je l'ai pris justement pour faire un test cet hiver. Puis il a fallu que je fasse à peu près 20 km avant que le moteur électrique se mette à embarquer. Fait que ça montre que dans les conditions hivernales où il fait très froid, le système hybride rechargeable n'est pas très efficace. Fait que je suis totalement d'accord pour qu'on revoie ces normes-là. D'ailleurs...
Qu'on les revoie pour les enlever, tout simplement? Ou
Pour les diminuer graduellement puis les enlever éventuellement, okay. Je suis d'accord. Parce que je considère d'abord que la technologie hybride rechargeable est une technologie de transition. La réalité, là, si vous regardez, si on recule en 2011-2012, une voiture électrique moyenne qui n'était pas une Tesla 100 000 dans le temps, là, tu avais une autonomie de 110 km.
Ouais.
En 2016, tu avais une autonomie d'à peu près 150 km. Puis en 2020, tu avais une autonomie de 400 km pour une voiture 100% électrique.
Ouais.
Si tu recules avec les hybrides rechargeables, en 2011, tu avais une Volt à 64 km d'autonomie. C'est rendu 10 ans plus tard, puis la majorité des hybrides rechargeables
font même pas ça.
64 km.
Mm-hmm. Font même pas ça.
Il y a pas une progression d'évolution dans les hybrides rechargeables. Donc, ça veut dire que je pense qu'il n'y a pas vraiment de sérieux de la part des constructeurs dans les hybrides rechargeables de fournir des véhicules qui ont une réelle autonomie électrique, hormis que pour être des véhicules de compliance car, là, des véhicules pour rentrer dans les normes réglementaires, puis la titre.
Parce que même une Prius.
Plus de sérieux que ça dans les hybrides rechargeables, moi, je trouve qu'il manque de sérieux.
Mais tu sais, une Toyota Prius hybride rechargeable, tu as droit à 6 500 de crédit. Puis le RAV4, tu as le droit à 13 000. Bon, tu as un peu plus d'autonomie électrique, je suis d'accord. Mais là où j'ai de la misère, c'est que les constructeurs, ce sont des fins renards, on le sait, et vont jouer avec les prix en fonction de ça. Savent très bien que 90 % des Prius Prime vendus au Canada vont être vendus chez nous en raison des subventions. Même chose pour le RAV4 Prime. Fait qu'est-ce qu'on fait? On gonfle les prix de ces véhicules-là parce qu'il y a un crédit applicable en ce moment. Il n'y a personne qui achèterait un RAV4 Prime s'il n'y avait pas à 56 000 $ s'il n'y avait pas de crédit dessus, là, c'est sûr. Là.
Ça, on est d'accord.
Ça, je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord avec vous autres. Parce que le véhicule, écoute, le Prius Prime, là, quand tu regardes aux États-Unis ou au Canada, le prix que tes véhicules sont vendus, là où il y a des rabais ou là où il n'y a pas de rabais, c'est le même prix. Puis, si tu regardes,
mais il se vend pas là où il n'y a pas de rabais. C'est ça, là.
Ça fait rien. Non, mais en fait, regarde, tu regardes aux États-Unis, il y a des États où ils se vendent, même là où il n'y a pas de rabais d'État, parce qu'il y a un rabais fédéral. Ici, avant qu'il y ait un rabais fédéral, les véhicules ne se vendaient pas hors du Québec, puis la Colombie-Britannique, puis de l'Ontario, à l'époque où il y avait un rabais provincial.
Ouais.
Mais pour revenir sur ce que tu dis, les véhicules... Comment je te dirais ça? Les constructeurs automobiles, là, quelles que soient les normes qu'on va mettre en place, ils vont toujours sortir la calculatrice pour voir qu'est-ce qui est le plus payant pour eux autres.
Ben oui.
Quelle que soit la norme, ils vont toujours essayer de les contourner pour trouver des moyens qui leur coûtent le moins cher possible de répondre à ces normes-là. Fait que ça, ça n'a rien de nouveauté, puis ça va continuer à être comme ça. Puis l'idée, c'est de faire en sorte d'essayer de fermer le plus de loopholes ou de portes possibles.
Bien, c'est juste que moi, je trouve qu'il y a une iniquité entre un... Tu sais, je veux dire, bon, le Ford va finir par le sortir, son Escape hybride de plug-in, là.
On va le croire quand on va le voir.
C'est ça. Puis tu vois, mais l'autonomie de ce véhicule-là, sur papier, est 4 km de moins que celle d'un RAV4 Prime. Pourtant, ce véhicule-là a la moitié du crédit gouvernemental pour une niaiserie de taille de batterie, là. Tu sais, fait que c'est ça qui n'a pas de bon sens.
Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, présentement, on se le dit entre nous, là, il y a des discussions pour donner des rabais en fonction de l'autonomie électrique du véhicule et non pas de la grosseur de la batterie.
Bien, j'espère. Ça serait déjà plus logique.
Ben oui.
C'est ça. Ouais. C'est comme la taxe à la cylindrée, moi j'arrête pas de le dire. Ouais. Semble-t-il qu'il y a quelqu'un à SAC qui a pris une décision il y a 25 ans, on sait pas c'est qui, puis quand tu poses la question à SAC, ben tu le sais c'est quoi la SAC, là, il te répond une belle réponse protocolaire. Bon, mais la vérité, c'est qu'une taxe à la cylindrée aujourd'hui, c'est totalement désuet. Ben, taxé en fonction des émissions polluantes, non. Là, il y aurait une logique.
Je suis d'accord avec toi, puis on en a déjà parlé à plusieurs reprises.
Ouais.
Puis,
mais la SAC fait la sourde oreille, puis ils s'en fichent complètement, parce qu'eux autres, ils continuent de percevoir.
Même le gouvernement du Québec. Le gouvernement du Québec fait la sourde oreille. C'est-à-dire que nous, on parle de bonus-malus en fonction des émissions de gaz à effet de serre d'un véhicule. Puis, puis on leur dit que ça pourrait être fiscalement neutre, c'est-à-dire qu'un financerait l'autre. Parce que présentement, la taxe à l'immatriculation des véhicules en fonction de leur cylindrée a rapporté, depuis le début du programme de rabais à l'achat de véhicules électriques, a rapporté presque deux fois plus d'argent la surtaxe que le rabais a coûté au gouvernement du Québec. Sauf que la réalité, c'est que là tu te retrouves dans des... Parce que moi, je disais, il faudrait être transparent. On dit d'un côté, tu surtaxes les véhicules à forte cylindrée, puis de l'autre côté, tu donnes un rabais pour les véhicules électriques. Pourquoi ne pas attacher les deux ensemble? Pour faire en sorte qu'on ait une transparence et que les gens voient exactement combien un coûte et combien l'autre apporte.
Ben oui, mais c'est pas juste ça.
Ça a l'air trop compliqué.
Ah oui, puis c'est pas juste ça. C'est que tu vas taxer un véhicule en fonction de sa cylindrée, mais il y a des plus petites cylindrées qui consomment plus que des grosses. Puis, coudon. Puis, tu sais, là, on peut descendre bien bas. Tu sais, je veux dire, prends un. Bon, qu'est-ce que je conduisais récemment? L'Infiniti QX55. Là, on vient de mettre ça à l'essai avec un 2 litres turbo. Ce moteur-là, avec une compression variable, il se posait extraordinaire en consommation d'essence. Tu mets ça sur la route, ça consomme plus qu'un V6. Fait que, tu sais.
Mais pourtant, il ne paie pas de surprime quelconque parce que c'est une petite cylindrée.
Ah, il y a des exemples. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exemples là-dessus. Ouais.
En terminant, Daniel, peut-être une question peut-être un peu plus large et on l'a un peu effleuré. Pourquoi les véhicules électriques, ça pogne pas ailleurs au Canada? Évidemment, il y a la question de subvention, mais pourquoi on ne subventionne pas l'achat de véhicules électriques ailleurs au Canada? On le sait qu'on le fait en Colombie-Britannique, mais et que c'est une question idéologique pour chaque province. Mais pourquoi on ne va pas dans cette direction-là?
En fait, c'est d'abord, depuis quelques mois, il y a des annonces qui ont été faites par différents gouvernements comme quoi ils donnaient un rabais à l'achat de véhicules électriques au Yukon, à l'île du Prince-Édouard, en Nouvelle-Écosse. Donc ça, c'est des nouveaux rabais qui ont été annoncés. Le problème, c'est que là, moi, je connais des gens en Nouvelle-Écosse parce que je vous rappelle que je suis président de Mobilité électrique Canada, donc j'ai des membres partout au Canada. En Nouvelle-Écosse, ils disent, c'est le fun, on a un rabais, mais les concessionnaires n'ont pas de véhicules électriques.
Ah oui, hein?
Fait que il n'y a pas de disponibilité. Fait que ça nous ramène au dossier de la loi ZEV, une loi zéro émission fédérale, où on dit, c'est le fun que les gens aient accès à des rabais, mais s'il n'y a aucun véhicule chez le concessionnaire, ce que tu dis, là, tu te retrouves, mettons, en Nouvelle-Écosse, tu veux t'acheter un véhicule X électrique d'un concessionnaire Y, tu vas là, puis le concessionnaire dit, moi, mon constructeur m'en a pas fourni, puis non seulement ça, mais il n'a pas accrédité un seul concessionnaire sur le territoire de la Nouvelle-Écosse, qui, je le rappelle... Pour en vendre. Fait que lui, ça veut dire qu'il faudrait, mettons, qu'il aille au Québec pour venir l'acheter, mais s'il l'achète au Québec, il n'y a pas droit au rabais de la Nouvelle-Écosse, il a droit au rabais du gouvernement du Québec.
Fait qu'autrement dit, ce que tu es en train de nous dire, c'est que pour le moment, les constructeurs sont contents parce qu'ils font leur BA, c'est-à-dire qu'ils fabriquent un nombre minimal de véhicules électriques parce que le Québec en veut. Puis eux autres, ça paraît bien sur le plan politique de dire, oui, nous, on fabrique des véhicules électriques, mais la vérité, c'est qu'on n'en vend pas partout. Il y a un endroit au Canada où on le fait, puis c'est ici. Puis le reste,
Fois qu'on annonce un nouveau véhicule électrique, c'est ce qu'on nous mentionne. On va fournir le Québec, on va fournir la Colombie-Britannique, puis s'il en reste 3 ou 4, on les envoie en Ontario, puis c'est ça finit là.
C'est à peu près ça. Et d'ailleurs, C'est pour ça que chez Mobilité électrique Canada, on dit que ça nous prend une loi zéro émission à travers le Canada. Parce que là, au fur et à mesure où les normes, la réglementation est de plus en plus sévère en Europe, en Chine, là, avec Biden aux États-Unis et en Californie, bon, on risque de se retrouver, du moment que tu sors du Québec et de la Colombie-Britannique, avec les miettes pour le reste du Canada. Donc, on aura beau dire, on veut accélérer l'essor et le déploiement des véhicules électriques sur tout le territoire canadien. Comme les constructeurs vont les envoyer en priorité où ils doivent les envoyer pour des questions réglementaires et économiques, ben, l'Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta vont s'y chaper. Ajoute à ça le fait que la Saskatchewan vient de mettre une taxe de 150 $.
Ah, ça nous a bien fait rire, je te le confirme.
Pardon?
Ça nous a bien fait sourire, je te le confirme.
Oui, oui. Puis moi, ce que je trouve très drôle, c'est que eux autres, ils disent, ben, c'est pour entretenir les routes. Écoute, il y a 403 véhicules électriques sur le territoire. Ouais,
on l'a calculé, ça faisait 60 000 $.
Ouais. 60 000 $, ça veut dire que tu vas paver à peu près, je te dirais quoi, 3 pieds de long de route.
À peu près, à peu près.
Ah, tu vas patcher 14 nids de poule, là. C'est ça que tu vas faire.
Ouais, c'est à peu près ça. Puis le pire, c'est que les compagnies pétrolières n'appartiennent pas au Saskatchewanais, mais SaskPower, la compagnie d'électricité, appartient au Saskatchewanais.
Ah oui, quand même.
C'est un message politique, ça. Ce n'est qu'un
message. C'est très fort. Oh, c'est très fort.
Hey, juste un petit mot en terminant, Daniel, parce que le temps nous presse. J'ai vu quelque part que tu avais un coup de cœur pour un véhicule électrique que tu as hâte de voir débarquer, qui, moi, m'interpelle beaucoup aussi. C'est le Fisker Ocean. Parle-moi de ce véhicule-là. As-tu des détails sur ce qui s'en vient là-dessus?
En fait, ça, c'était un poisson d'avril que j'ai fait. J'avais marqué le Fisker. J'avais fait un
hein? Ouais.
Le Fisher Ocean pour le poisson d'avril, mais effectivement, j'ai hâte de le voir débarquer si jamais il débarque un jour.
Il y a une sacrée belle gueule, en tout cas.
Il y a une sacrée belle gueule, t'as raison. En fait, il y a des véhicules électriques extrêmement intéressants qui s'en viennent dans les prochains mois, les prochaines années, là. Les Rivian et autres modèles.
Malheureusement, avec le poisson d'avril que Volkswagen nous a fait, le tien est un peu tombé à l'eau.
C'est vrai. Vous avez raison, les gars. Celle-là, je ne sais pas s'ils l'ont échappé ou si c'était vraiment volontaire, mais en tout cas, ils ont eu les culottes baissées, on va se le dire.
Mais Fisker, c'est un fabricant qui pourrait débarquer ici avec des
un
véhicules électriques.
Sérieux, oui, oui,
un
oui.
Produit qui semble sérieux, là, c'est ça. Tu sais.
Et dans le haut de gamme, ben, y a de la place, là, parce que on en lance un après l'autre. Là.
Oui, absolument. Mais je ne m'achèterai pas un Hummer électrique, si c'est votre question.
Non? Ça va être quoi ton prochain pour le fun?
Honnêtement, je ne sais pas, parce que là, je les ai tous essayés. Puis quand je retourne dans ma Model 3, je suis bien content.
Ah, Mustang, bon. Non?
Mustang, je l'ai beaucoup aimé, mais moi, je suis pas du type multisegment VUS. Tu sais, je le trouve un peu plus haut sur patte. Quand tu aimes une conduite un peu plus basse, un peu plus sportive, je trouve la Model 3 plus intéressante. Mais ça demeure pas moins que c'est vraiment un véhicule électrique extrêmement intéressant, le Mustang Mach-E. Mais tu sais, c'est chacun ses besoins réels. Moi, j'ai pas besoin d'avoir un VUS ou un multisegment. Je n'en ai pas besoin. Et ça, c'est la première question qu'on pose à notre guide.
Ben, j'ai posé la...
avant d'acheter un véhicule.
Pierre-Yves McSween serait très fier de toi, là.
Pardon?
Pierre-Yves McSween serait très fier de toi que tu répondes que tu n'en as pas besoin, que tu n'en achètes pas.
Oh oui, mais en fait, j'avais déjà compris ça avant qu'il en parle, là. C'est-à-dire que en as-tu vraiment besoin? J'en parle à ma blonde depuis des années, d'ailleurs.
Ouais, ben tu vois, elle.
Et elle reste
moi,
avec
j'ai,
toi.
j'ai vu la grosseur de votre chien et j'ai vu ce qu'elle s'était acheté comme voiture électrique. Je trouve que ça fit parfaitement.
Exactement.
Faut le dire aux gens, elle roule en Smart électrique.
Oui, voilà.
Ça vous donne une idée de la grosseur du chien.
Oui,
oui, voilà.
Merci, Daniel, pour ton temps. Puis évidemment, on va inviter les gens à se procurer le guide pratique de la voiture électrique et plus.
Merci beaucoup, Daniel.
Au revoir, les gars.
À bientôt.